Bonjour, c'est Jean-Philippe Bergeron. J'espère que vous allez merveilleusement bien. On est aujourd'hui le 16 septembre 2001. Et aujourd'hui, j'ai un épisode qui est un peu un suivi de celui de la semaine dernière. J'ai l'intention de parler de comment le gouvernement et la société en général nous gardent dociles après qu'on ait vieilli, lorsqu'on est adolescent et plus tard adulte, et que la dépendance de l'enfant n'est plus là. Pour commencer, je pense que je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine, qui est un peu dans le sens où je veux aller dans ce podcast, dans cette explication-là. Donc, j'étais à mon travail et je parlais que je pensais sincèrement à postuler pour un poste de superviseur. Il y a un poste de superviseur qui s'est ouvert, vu qu'un ancien superviseur a démissionné. Donc, je disais ça et il y a une certaine personne dont je vais taire le nom qui avait pas l'air de trouver ça drôle, mais pas du tout. Donc, et là, moi, à cet instant-là, je savais pas encore. Et là, je lui dis, en semi-blague, que j'allais peut-être l'évaluer dans un futur rapproché. Hein, je vais peut-être pouvoir t'écouter et t'évaluer. Il me répond, sérieux, sur un ton monotone, ça me surprendrait. Ils te prendront pas, t'es trop jeune. Je vous jure, je suis pas un gars violent, mais à ce moment-là, j'ai eu le goût de... J'étais vraiment en colère. Heureusement que je tiens le principe de non-agression bien, bien près dans mon cœur et que j'aurais pas fait rien de violent, même si j'aurais pu, même si j'avais une pelle, quelque chose. Donc, c'était une objection, une opposition à moi, à ce que je devienne un superviseur. Une opposition basée sur quoi? Absolument rien. Je veux dire, je suis peut-être jeune, mais je veux dire, il y a des superviseurs qui sont plus jeunes, aussi jeunes ou un an ou plus vieux que moi. C'est pas du tout une excuse. Et donc, c'est un peu où je veux en venir. D'après moi, cette anecdote-là, c'est pas un cas unique. C'est quelque chose qui est très présent, très pervasif, très pervers. Dans la société en général, la société nous garde dociles en nous décourageant. Les moutons, je ne veux pas insulter personne, les moutons qui composent une bonne partie de la société nous poussent à abandonner notre ambition. Et je veux dire, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole pour ça. Je vais vous demander de faire si vous avez des doutes quant à ça. Prochaine fois que vous allez à votre travail ou dans une soirée entre amis, parlez de quelque chose qui vous tient à cœur et essayez d'être aussi passionné que possible. Je veux dire, quelque chose que vous pourriez parler pendant des heures sans vous arrêter, avec un peu de parlez-en pas pendant des heures, par contre, avec ces gens-là, mais parlez-en avec toute la passion que vous êtes capable de réunir dans votre cœur. Et parlez-en. Et observez la réaction des gens. Est-ce que les gens, en général, vont vous encourager dans votre passion? ou est-ce que la plupart vont rester ce que les Anglais appellent le thousand yard stare, regarder avec un regard blanc et sans expression, et il y a sûrement une ou deux personnes qui vont tenter de vous rabaisser. Parce que la passion, votre passion, leur fait peur. C'est dommage, c'est triste, c'est tragique, mais lorsque vous exprimez votre passion, votre ambition, ça leur prouve que c'est possible. Ça leur démontre que eux aussi auraient été capables de briser ce cycle, le cycle d'esclavage qui a été poussé dans leur famille, dans les écoles publiques et dans une bonne partie de la société en général, que ce soit dans les usines, dans les bureaux, où ce que tout le monde fait son travail, personne fait un bruit plus fort que l'autre. Ce genre de société-là dans laquelle on vit en ce moment, si vous agissez avec passion, ça prouve aux gens qui vous écoutent qu'eux aussi sont capables de faire ça. Ou plutôt qu'ils auraient été capables de le faire, mais qui maintenant, un peu tard, surtout si la personne en question est plus âgée que vous. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils attaquent, ils rabaissent. Ils vont se moquer de vous, ils vont rire de vous. Et ils vont tout faire pour vous remettre à leur niveau. C'est eux les gens pathétiques dans cette histoire-là. C'est pas vous, croyez-moi. On peut regarder ça un peu, cette idée de rabaisser la passion et la. À quel point l'être humain peut être merveilleux de rabaisser ça. On peut aussi voir ça dans la philosophie politique. La gauche a cette idée, beaucoup chez les environnementalistes aussi, que l'individu est rien, que l'individu en tant que tel n'a pas d'importance par rapport à la collectivité. Chez les environnementalistes, ça se résume plus à, vous savez, la terre-mère, mère-nature, une autre métaphore parentale, juste pour vous dire. C'est assez évident où ce que l'environnementalisme, d'où vient l'environnementalisme, selon moi. Donc, toute la rhétorique que l'être humain est rien dans la nature et rien dans l'univers est juste un dust in the wind, comme dirait la chanson, la poussière dans le vent et rien d'autre. C'est vraiment déprimant, selon moi. Chez certaines personnes chez la droite, pas tout le monde, et encore une fois, pas tout le monde chez la gauche non plus, mais chez certaines personnes, la droite, en ce moment, je pense beaucoup aux gens du Tea Party aux États-Unis, qui réclament de représenter les gens ordinaires, l'Américain de tous les jours. C'est peut-être vrai, mais pour moi, c'est pas un objectif d'être un être humain ordinaire. Surtout pas de nos jours. S'il y a quoi que ce soit qu'on devrait, s'il y a un but qu'on devrait avoir, en général, ce serait de viser à être l'être humain du futur, l'être humain dans 200 ans. Mais l'être humain d'aujourd'hui, l'être humain de tous les jours d'aujourd'hui, c'est une créature assez triste et tragique. aussi chez la droite américaine, il y a aussi le même genre de patriotisme que c'est ça, que l'être humain, que l'Américain n'est rien à côté du pays. C'est la mère patrie, America, America, America. Et je suis sûr que vous avez un équivalent dans votre pays. Comme je vous ai déjà parlé ici au Québec, il y a la langue française. À quoi sert une langue s'il n'y a pas de gens pour la parler? Donc, la langue qui est si importante aux Québécois, non, ce qui est important, c'est les gens qui parlent cette langue-là, les gens qui choisissent de la parler. C'est ces gens-là que vous devez vous attarder et féliciter si vous voulez avoir, si vous voulez protéger, ah, peu importe, là. Je m'égare, là, je vais certainement pas commencer à parler en termes étatiques. Donc, là où je veux en venir, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les hiérarchies illégitimes qui sont présentes et qui dirigent le monde de nos jours, ces hiérarchies-là sont pas maintenues par la violence qui vient d'en haut. C'est pas à cause de l'armée ou de la police que le gouvernement est encore là. C'est la violence d'à côté. La violence d'esclaves contre esclaves. Les gens qui vous attaquent parce que vous êtes extraordinaire. Et c'est une des choses que j'admire beaucoup de l'objectivisme, de cette idée-là qui est prônée que l'être humain est extraordinaire, a un potentiel extraordinaire. Donc, un peu comme la matrice, l'idée que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que vous allez rencontrer sont tellement dépendants du système qu'ils vont se battre pour le protéger. C'est triste, mais c'est vrai.
Ouais. You tend your island all alone, waiting on a ship to take you home, but it's inside you the one right way. Build a raft from it, and one day you'll make something beautiful the world can ignore, like the beautiful bright baby or the child you were before. But it won't happen by accident. These things, they never do. A gray life is a white flag. Go do this thing. Wake up to your own desires and put to bed those dream deniers who pick and prod to make you fall. and bind your brain to keep you small. A white flag, go do this thing. Won't you do this thing for you? Thank you.